Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Et bonjour chers auditeurs et bonjour Cécile Carrier.
Bonjour à tous, bonjour Martine.
Alors ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, on est ravis de vous retrouver avec un nouveau fil conducteur qu'on va égrener peut-être plusieurs fois. Et donc on rappelle simplement, non pas tous vos titres qui sont nombreux, mais que en ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, vous êtes spécialiste d'histoire de l'art et spécialiste de la sculpture.
Sculpture et iconographie, puisque nous aujourd'hui, on va s'occuper beaucoup d'iconographie.
Voilà, alors justement, c'est le mot que nous allons lâcher tout de suite. Qu'est-ce que c'est que l'iconographie ?
En fait, l'iconographie, c'est en quelque sorte l'étude de l'image de l'icône.
Hein, icône en grec, voilà. Oui. Icône.
Écriture. Et en fait, les iconographes étudient ce que signifient les images. Mais aussi les typologies, on forme des typologies. Alors, je pense que les auditeurs commencent à bien connaître,
voilà.
Parce que j'en parle souvent.
On les a un petit peu formés, voire formatés.
Oui, oui. Et donc, c'est vrai que pour mon doctorat, j'avais étudié les programmes iconographiques, c'est-à-dire les messages que l'administration impériale et l'empereur faisaient passer à travers les images que l'on pouvait voir sur les monuments publics ou sur les monnaies, par exemple, sur les œuvres d'art qui étaient issues des ateliers officiels.
Donc nous allons essayer, autant que faire se peut, de décoder tous ces messages iconographiques qui nous sont envoyés au musée de la Romanité.
Voilà. Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose de plus ludique et plus simple, parce que parler de programme iconographique sans
oui,
voir les images,
ça
serait quand même...
Voilà. Là, ils sont terrorisés, je le sens.
Voilà. Non, là, ce que je voudrais aborder, c'est la diffusion de ces différents types iconographiques sur différents supports matériels. Donc, on ne va pas parler que de la sculpture, en fait. On va parler aussi de céramique, on va parler
voilà, médaillons.
Des médaillons, etc. Pour justement voir que ces motifs, hein, on peut parler de motifs, ne sont pas cantonnés à un seul support, mais se diffusent partout, sur tous les supports possibles et inimaginables. Et on en trouve partout, aussi bien dans le milieu privé que dans le milieu public ou semi-public, à travers l'Empire. Ce sont des motifs qui se diffusent partout.
De sorte qu'ils sont des marqueurs du temps et en même temps du marqueur des idées.
Des idées et de la mode, des goûts, des gens qui évoluent. On va voir qu'il y a aussi des motifs qui deviennent génériques à travers le temps également. C'est-à-dire qu'ils presque perdent leur sens premier pour devenir un motif que tout le monde utilise à tort et à travers, on dirait, quelque part.
Oui, et par exemple, à Nîmes, on voudra faire comme à Rome, et donc on va importer ces motifs et les traduire à la sauce gallo-romaine.
Exactement. Voilà. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, d'ailleurs.
Alors, que nous proposez-vous comme belles icônes ? Moi, je vois sous les yeux, les auditeurs ne l'ont pas, mais ils vont se précipiter au musée
oui.
Après, puisqu'on va prendre soin à chaque fois de dire où ça se trouve.
Exactement.
Et on prendra soin aussi de dire que parfois, elles se trouvent dans la merveilleuse exposition
oui.
Qu'on doit aller, non pas voir, mais revoir, car ça mérite le détour, ça mérite plusieurs passages. Et donc, à chaque fois, on précisera où elle se trouve. Donc là, on avait envie de parler de Vénus.
Voilà, parce que Vénus se prête particulièrement à ce sujet de la diffusion des types iconographiques. Alors, évidemment, en l'hommage à l'expo, mais pas seulement, c'est aussi parce que c'est sa typologie qui veut ça, on va parler d'objets qui sont actuellement dans l'expo Achille, mais qui sont d'habitude dans la collection permanente. Mais voilà, en ce moment, tous ces objets sont dans Achille.
Alors, on va employer un terme un peu technique, mais qui sera tout de suite traduit parce qu'il y a une autre appellation plus commune. Cette Vénus dont nous voulons parler, c'est la Vénus anadiomène.
Anadiomène, c'est-à-dire, surgit des eaux. Hein,
voilà.
C'est la naissance d'Aphrodite à partir du sperme de son père tombé sur Terre. Et donc, ce type représente Vénus torse nu, avec un drapé autour des jambes. Et le motif original... En fait, représenter la déesse en train de se serrer les cheveux pour les sécher. Ce motif, en fait, a été créé, a priori, par un peintre qui s'appelle Apelle, qui est un peintre qui œuvre au IVe siècle avant Jésus-Christ en Grèce. Et il peint cette Vénus pour la ville de Kos, d'où il est originaire. Et cette peinture a toute une histoire. On sait par les sources anciennes qu'elle part à Rome lors des conquêtes. Et Auguste va la placer au Palatin, si je me souviens bien, et va en faire un peu l'image type de son ancêtre mythique, la Vénus Génétrix. Elle n'est pas la seule, hein, puisqu'on sait qu'il y a d'autres Vénus qui ont cette appellation de Génétrix, c'est-à-dire la mère, hein, la Vénus Génétrix. Mais la Vénus voilà, du peintre Apelle a fait partie de...
Il faut quand même rappeler que... L'oncle Jules César, voilà, prétendait descendre de Vénus.
Toute la famille, voilà, il disait que la famille descendait des Iules, c'est-à-ire du Troyen.
Du fils d'aîné.
Du fils d'aîné, et donc eux-mêmes descendants de Vénus. Et donc cette peinture a été accaparée, si je puis dire, par Auguste dans sa politique, dans sa propagande politique.
Et dans le culte impérial qu'il veut instaurer.
Voilà, exactement. Donc, une image donc grecque qui est adoptée par les Romains sous une forme vraiment très politique, mais qui en fait est une typologie qui, dès le départ, a énormément plu et a été copiée en sculpture très rapidement. Donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, on en a beaucoup d'exemplaires avec de très nombreuses variantes sur le drapé, sur la position des bras. Et on a des variantes, celle qu'on appelle la Vénus de Nîmes, qui est aujourd'hui pas visible puisqu'elle est, elle est en cours d'étude pour restauration, mais dont on voit le moulage qui avait été réalisé pour le Musée des Beaux-Arts dans l'expo Achille. Cette Vénus-là est une variante de la Nadiomène, en fait. C'est une variante de type Syracuse, on appelle ça, où on voit bien que les bras, là, elle n'est pas en train de se sécher les cheveux, elle a les bras en bas.
Elle est occupée à tenir son pareo.
Voilà, et à cacher ses seins, si je me souviens bien. Donc, il y a des variantes, énormément de variantes de cette Vénus d'Apelle. Depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, ça fait beaucoup de variantes et beaucoup d'exemplaires.
Et très souvent, je ne sais pas si c'est toujours, il y a un déhanché très gracieux.
Très gracieux, exactement. Alors, le torse qui est aussi actuellement dans l'expo Achille, mais qui d'habitude est présenté dans l'espace religion, il manque le bas. Hein. On voit, si on regarde de côté ou à l'arrière, on voit que les fesses sont coupées en fait en biseau. C'est pour insérer le torse dans le drapé qui était sculpté à part. Voilà, et qu'on a malheureusement perdu. Alors, je dis malheureusement parce que ça devait être une très très belle statue. Quand on voit ce qui reste du torse, elle est absolument sublime. C'est une de nos œuvres maîtresses, je dirais, au point de vue de la statuaire idéale et divine. On voit le modelé qui est très très raffiné. Hein. Donc là, on est vraiment sur de la belle statuaire. C'est une belle copie, on va dire. Et du coup, je me suis perdue dans mes... Voilà, par rapport à la diffusion donc, du type iconographique. Donc nous, on a deux représentations sculptées. Hein, de la peinture, donc on voit déjà qu'on a une diffusion sur d'autres supports que l'original, et on a également une épingle en os qui représente cette même Vénus.
Elle est magnifique.
Elle est magnifique, qui est d'habitude exposée, je crois, dans la vitrine parure, il me semble.
Oui, il me semble aussi.
Et qui est actuellement aussi dans l'expo, il me semble, dans une vitrine sur le gynécée, il me semble. Parce qu'évidemment, c'est un des objets phares pour nous du musée, cette épingle en forme de Vénus. C'est pas courant non plus. Et donc, on voit cette diffusion donc, de ce motif sur des supports différents.
Donc, et là, c'est une Vénus qui est belle, parce que je pense, j'ai dans les yeux et dans le cœur, une Vénus qu'on trouve au musée archéologique de Naples, où on voit une Vénus vieille, un peu décatie, mais très très belle. Et qui sort complètement de tous ces modèles-là.
Alors là, oui, on a la femme mature, hein, parce que c'est quand même une femme qui est censée avoir enfanté. Hein, donc, c'est la femme dans toute sa... c'est une femme qui a les hanches larges, hein, on voit, qui est vraiment la déesse mère. Hein, d'ailleurs, les déesses gréco-romaines, elles ne sont pas maigres. Hein, elles n'ont pas des très fortes poitrines, mais elles ne sont pas maigres. Ouais. Elles ont des petites rondeurs. On a la Vénus accroupie, par exemple. Elle a des bonnes bouées. Hein, ça décomplexe, en fait. Hein.
Et oui, on voit qu'elles sont belles. Donc,
elles sont
voilà,
belles,
ça n'a rien
oui,
à
oui,
voir.
Oui, ça n'a rien à voir. Oui, oui, elles sont majestueuses. Et donc, cette typologie donc, de Vénus, elle est très, très diffusée. Rien que sur Nîmes, déjà, bon, on voit qu'on en a plusieurs exemplaires. Le fragment de Vénus qu'on avait trouvé lors des fouilles du Jean Jaurès, du parking Jean Jaurès, on avait trouvé un fragment de cette Vénus aussi, de type anadiomène. Alors, probablement plus proche de celle qui est au cloître qui n'est pas visible pour l'instant. Mais on en trouve beaucoup dans le sud de la Gaule et partout, en fait, en Gaule. Alors, ce n'est pas tout à fait la même typologie, oui. Par contre. Mais j'en avais trouvé une à Ariès en tôle de plomb, une petite figurine qui était certainement un dépôt votif, en fait. J'en ai trouvé, je crois qu'il y en a une à Fréjus, il me semble, qui a été trouvée au théâtre, il me semble, de Romain de Fréjus. Et il me semble que j'en ai vu une à Lyon aussi, je crois.
Oui, est-ce que j'allais dire beaucoup, à Lyon hein. Ou bien à Saint-Romain-en-Galles.
Peut-être, ouais, oui. C'est possible, oui, parce que je ne les connais pas toutes par cœur, mais en fait, on en a beaucoup de cette typologie-là. Elles sont très... Elles sont très belles. Enfin, elles sont
épurées.
Oui. Puis elles ont un côté sensuel aussi. Mmh. Donc, c'est d'ailleurs celle qui est encore dans le cloître aujourd'hui. Elle a été trouvée dans une demeure en fait, dans une domus.
Donc celle que nous envisageons aujourd'hui et que l'on peut voir dans l'exposition dédiée à Achille. Elles ont par la coiffure, elles ont des attributs augustéens ou bien
pas particulièrement. Non. Alors le torse, honnêtement, j'aurais des doutes. D'autant plus qu'elle a été trouvée en remploi. Elle a été trouvée dans des déchets de terre le long du cirque romain, tout comme la grande tête de Tibère. Donc là, voilà, j'ai un doute. Pour moi, potentiellement, elle pourrait être issue d'un bâtiment public.
Oui, c'était une de mes questions.
Oui. Elle a été trouvée, pareil, avec un fragment, alors vraiment très fragmentaire, d'une tête où on voit que quelques boucles de cheveux et le haut du front, mais qui est énorme. Enfin, en proportion, c'est largement la proportion de la tête de Tibère. Donc, pour souvenir, la tête de Tibère, du menton au front, elle fait déjà 40 cm, c'est-à-dire le double de la grandeur naturelle d'un être humain. Donc, là, on a des fragments qui sont assez exceptionnels en marbre. Donc, je me demande si cette Vénus, enfin, ce torse de Vénus, ne venait pas d'un bâtiment public comme les autres morceaux.
Alors justement, vous avez évoqué le marbre. Sur les trois œuvres que nous évoquons, deux sont en marbre.
Oui, c'est deux statues en marbre.
Voilà,
et la petite épingle, elle est en os.
En os.
C'est de la tablaterie romaine traditionnelle. Ouais, ouais.
Et sans doute de fabrication locale ou on n'est pas capable de le dire.
Alors ça, je ne pourrais pas vous dire parce que ce n'est pas ma spécialité. Et c'est vrai que dans l'ouvrage de Jean-Claude Béal qui a publié une partie de la collection, je ne me souviens pas d'avoir vu quelque chose là-dessus.
Alors nous resterons sur cette question et quand nous aurons la réponse, nous l'atteindrons ultérieurement.
Mais ça a l'air assez compliqué à étudier hein, de toute façon la tabletterie au point de vue des ateliers, hein, de ce que j'ai pu voir.
Eh bien, nous allons marquer une petite pause musicale et ensuite, nous changerons de Dieu.
Voilà.
À tout de suite.
À tout de suite. Thank you.
C'est la deuxième partie de l'émission Antiquissimo sur Radio Alliance Plus, dédiée à certaines œuvres, à certaines statues, mais pas que, que Cécile Carrier nous propose de déchiffrer pour voir comment ce matériau iconographique révèle énormément de choses. Alors, nous avions vu la belle Vénus sortie des eaux. Et voici qu'on va s'intéresser maintenant au Mars victorieux.
Un Mars victorieux, alors je vais vous sortir le mot en essayant de ne pas l'écorcher.
Oui, c'est pas facile à dire.
Non, c'est le Mars Tropaeophore.
Alors, le fort, mot, il porte, et porte un trophée.
Trophée. Voilà, c'est d'où le caractère victorieux de cette image.
Alors, Mars et Vénus, ça va bien
ça
ensemble.
Ça va bien ensemble.
Ce n'est pas un couple légitime, on sait qu'il y a eu plein de petites histoires autour de ça. Mais enfin, bon, ces deux-là, on les a sortis souvent.
Oui, et puis là, pour le coup, au point de vue iconographique, ils sont intéressants. Donc, alors, pour cette fois, on ne va pas parler de sculpture, puisque je n'ai pas d'exemplaire sculpté au musée. Donc, on va sortir de nos sentiers battus. Le Mars Tropaeophore, je vais essayer de le dire à chaque fois correctement, c'est un Mars qui est nu, debout, qui porte d'un côté une lance et de l'autre un trophée. Le trophée, pour ceux qui ne savent pas exactement à quoi ressemble un trophée à la romaine, c'est un long bâton sur lequel on accroche les dépouilles des ennemis. Mais quand on parle de dépouilles, ce sont des éléments de l'armement, casque, bouclier par exemple, ou cuirasse.
Mais donc, ce n'est pas le scalp. Hein.
Non. Parce que quand j'ai dit le mot dépouille, je me suis dit, oula, il faut peut-être préciser. Et l'autre caractéristique de ce type de Mars, c'est qu'il semble faire une espèce de petit pas dansé. Et d'ailleurs, les chercheurs qui l'ont étudié ont souvent fait le lien entre cette iconographie et la danse typique des prêtres saliens, c'est-à-dire les prêtres voués au culte de Mars à Rome. Donc c'est un culte qui est vraiment très ancien, traditionnel de Rome, hein, du Latium. Hein. Là, on n'est pas dans la Grèce, hein, on est vraiment dans quelque chose d'archaïque romain. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des danses guerrières rituelles aussi en Grèce. Hein, donc, sauf que là, on parle vraiment du Mars à la romaine, même si l'iconographie est évidemment influencée par le dieu grec. Alors, pour le voir, pour voir cette iconographie, vous avez une bague qui est exposée dans la vitrine parure. Et qui montre, alors c'est une, que je ne me dise pas de bêtises, je ne sais pas si c'est une agate ou si c'est un... Oui, c'est une agate bleue, rayée, où on voit ce petit Mars. Hein, donc, bon, les gens peuvent se fier au cartel hein, donc, oui. Pour le retrouver. C'est une bague en or, il y a 3-4 bagues en or qui sont exposées, donc bon, on devrait pouvoir se repérer. Et on a une monnaie aussi qui le montre, ce Mars dansant. On va l'appeler comme ça, ça sera plus facile que Tropaeophore. Et donc, c'est intéressant parce que donc on voit que ce motif se développe énormément sur les monnaies, et notamment à partir du début du 1er siècle avant Jésus-Christ à Rome. C'est là où on a le plus d'exemplaires qui arrivent dans les collections. Et après, tout le long de l'Empire, on voit ces monnaies avec le Mars dansant. Et on trouve aussi beaucoup d'exemplaires en glyptique, c'est-à-dire sur les gemmes gravées, les intailles. Et on trouve également ce motif sur des lampes. Et sur des figurines. Alors, nous, on n'en a pas d'exemplaires ni sur lampe ni sur figurine. On n'a que la monnaie et la bague, ce qui est déjà pas mal, qui permettent de le savoir.
Et ça, c'est... on a une autre lampe à huile ?
Non, malheureusement, non. Mais c'est intéressant de savoir que voilà, ce motif se diffuse à partir des monnaies sur de multiples supports. Donc là, on est vraiment sur la diffusion d'un motif récurrent qui, au départ, est plus politique, parce que manifestement, ce motif serait issu d'un type statuaire qui aurait été créé spécifiquement pour un des temples de Mars à Rome. Mais alors ça, c'est des hypothèses de recherche.
C'est le Mars sous le Thor ou non ?
Non, le Mars sous le Thor serait beaucoup plus récent puisqu'il daterait d'Auguste, alors que ce Mars serait beaucoup plus ancien et serait lié vraiment au premier temple, au pluriel, dédié à Mars à Rome. Alors ça, ce sont des hypothèses de chercheurs. puisqu'on n'en a pas trouvé la trace de cette statue, mais on voit bien que manifestement il y avait un original que tout le monde s'est mis à copier sur, alors au départ sur les monnaies, puisque c'est un support officiel, et qui ensuite est devenu un motif que l'on retrouve de manière récurrente sur d'autres supports. En fait, le motif devient générique oui. pour représenter un Mars. Mais au départ, c'est une iconographie officielle d'époque républicaine.
Oui, il faut. Alors, on parlait des origines, mais on est vraiment aux origines de Rome, et c'est sans doute dans l'environnement des temples à Saturne, de ces.
De Mars, typiquement. Oui, oui. Là, on est vraiment. Donc là, j'ai pas réussi. Les chercheurs ont plusieurs hypothèses. Donc, on voit bien on fait bien le lien avec les danses des Saliens. On se doute bien qu'il y a un lien, mais aller au-delà, c'est compliqué quand on n'a pas la statue, enfin, donc quand on n'a vraiment rien sur la statue d'origine. Ça, vraiment, c'est après, au point de vue iconographique, certains ont fait un lien aussi avec des représentations d'époque hellénistique, où on voit des danses guerrières. Probablement que ces images se sont influencées.
Curieusement, moi, je fais une association aussi en parlant de dieux guerriers dansant avec le David de la Bible, où on le voit aussi.
Oui,
dans
mais
la
les
posture.
Danses guerrières oui. sont très anciennes. Hein. Oui. Ça a toujours existé. Hein. Ça vraiment, c'est les chants, les danses qui sont à la fois pour souder la troupe, mais aussi pour faire peur à l'ennemi. Enfin,
Et là,
on est en plus dans une danse rituelle.
Dans une danse rituelle et pleine de grâce. Quoi. C'est pas du tout.
On n'en sait rien parce que du coup, on ne connaît pas la danse des Saliens, on ne la connaît pas. Mm. Donc là, ça va être difficile. Ce que l'on voit sur certaines images, justement, de l'époque hellénistique, ce sont des danses qui sont figées. Ils sont souvent armés, mais pas toujours. Donc, c'est difficile de dire. Il y a trop de variantes pour que nous, on puisse vraiment se rendre compte. En tout cas, c'est une danse virile, ça, c'est sûr. Où on saute, manifestement.
Oui, là, sur l'image que vous nous avez apportée et que les auditeurs pourront voir, oui, effectivement, il est sur la pointe des pieds.
Oui, hein. Oui. Puis on voit, il est nu, mais il a probablement la chlamyde, enfin, on ne sait pas si c'est une chlamyde ou une écharpe, enroulée autour de la taille. Et on voit que ça s'envole, quoi. Donc, oui. On voit que le mouvement est vif.
Oui, c'est hein. ça.
Ça rappelle les mouvements des péplos et des chitones des victoires, par exemple, ou des ménades dansantes, où tout s'envole. On voit les plis qui oui. partent dans tous les sens. Donc là, on est vraiment typiquement dans un mouvement de corps.
Donc là, sur la tête, un casque.
Oui.
Voilà, donc ça, il n'y a pas de doute sur la symbolique du casque. Et là, les trophées ont disparu.
Ah ben, sur la figurine, oui. Ah ben oui, ça, c'est ce qui part en premier.
Alors, cette figurine, on va quand même le préciser, Cécile, oui. celle dont nous parlons.
C'est une figurine, en fait, que j'ai pris en exemple parce que je n'en avais pas au musée. Elle est exposée, elle est conservée au musée jurassien d'Élemont. Ou d'Élemont, je trouve les deux orthographes, donc je ne sais pas si c'est d'Élemont ou d'Élemont. Mais on la trouve facilement en photo sur Internet, j'ai vérifié pour que les gens puissent la retrouver. Et comme ça, ils auront une image en figurine de ce Mars dansant qui est assez, moi je trouve, explicite au point de vue du mouvement.
Et alors, quant à cette bague, je refais un petit retour
oui.
en arrière. On imagine que ce sont des personnes très importantes qui ont ce type de bijoux.
Oui, une bague en or, c'est sûr, c'est pas tout le monde avec une belle agate comme ça. En plus, le choix d'un motif qui est quand même martial, il y a peut-être un lien avec une des fonctions de la personne. Difficile de dire, puisque là, je n'ai pas de...
On ne sait pas où ça a été trouvé.
Non, là, honnêtement, sur cette bague, je regarde quand même, mais... non, effectivement, je n'ai rien sur cette bague qui nous permet de savoir d'où elle peut sortir.
Et c'est un bijou masculin, à votre avis, ou féminin, cette bague?
Pareil,
elle pourrait aller pour les deux, j'imagine.
Alors, je ne l'ai pas essayé.
Quel dommage.
Mais, non, c'est vrai que en général, quand on est avec les bijoux, on est plutôt très précautionneux, donc on les manipule le moins possible. Donc, mais c'est vrai que le tour de doigt ne m'a paru pas si grand que ça.
C'est pour ça que je posais la question. Mmh. J'avais plutôt l'impression que c'était un bijou féminin.
Oui, mais en même temps, l'épaisseur d'or est quand même importante.
Alors, Mars, on n'a pas épuisé le sujet, mais on va annoncer pour les fois prochaines qu'il y aura quand même quelques rapports, puisque je vois que se pointeront la prochaine émission quelques louves.
Quelques louves romaines, oui.
Et qui dit Louvre, eh bien dit Romulus et Rémus, c'est-à-dire les petits rejetons de notre cher Mars.
Voilà.
Alors on va se quitter sur cette annonce et la perspective de se retrouver très bientôt. Merci beaucoup.
Merci,
au revoir.
Au revoir.